Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé actu, de la bande dessinée Travailler Demain et du jeu vidéo Baldur's Gate 3. Allez l'écouter. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec le film A Normal Family. Nous revenons sur une nuit mythique à Canal+, pour les arts médiatiques et nous sillonnons Paris pour la sculpture. Je suis toujours avec Ryan, Jeanne, Saphir et Isnel. C'est parti!
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia,
cinéma,
c'est dans l'art.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Si je vous dis émission mythique, siècle précédent et couleurs abondantes, Saphir vous répond étrangement la nuit gay et Canal+. C'est la rubrique art médiatique, à toi Saphir.
Alors c'était il y a 30 ans, le 23 juin 1995, c'était une veille de Gay Pride et Canal diffusait sa toute première nuit gay, une initiative aussi audacieuse qu'innovante, offrant 9 heures de programme entièrement consacré à la culture homosexuelle, une première sur le petit écran français. Et à l'origine de ce projet, c'était Alain Buros qui était responsable des programmes de la chaîne cryptée et qui souhaitait en fait faire reculer la peur, la honte et l'incompréhension. C'est comme ça qu'il vendait le programme dans le dossier de presse de l'époque. Et la nuit gay, ce n'était pas qu'une simple soirée télévisée, mais une véritable chaîne dans la chaîne. Il y avait du documentaire, des débats, des films, des clips, des reportages, de l'actualité pour donner une visibilité inédite à une communauté encore largement marginalisée dans les médias. Et pour l'anecdote, ce soir-là, le Marais, qui est le quartier emblématique de la vie gay à Paris, se vidait, de nombreux bars affichés complets pour permettre à leurs clients de suivre l'événement ensemble. Dès sa première édition, la nuit gay a marqué les esprits. Le documentaire inaugural Demain Monsieur retraçait 30 ans de représentation de l'homosexualité à la télévision française, du tabou médical à la comédie de boulevard, jusqu'aux premières histoires assumées. Et les années suivantes, Canal a poursuivi sur cette lancée, abordant des sujets majeurs, le coming out, le PACS, l'homoparentalité, la lutte contre l'homophobie, la visibilité lesbienne, la transidentité, la place des personnes LGBTQ+, dans le sport et la culture. Au fil des décennies, cette nuit a accompagné et parfois précédé les évolutions de la société française. L'adoption du PACS, puis du mariage pour tous, l'émergence de figures publiques LGBTQ+, la pénalisation des discriminations, la multiplication des œuvres et des débats sur toutes les chaînes. La programmation s'est enrichie de films cultes, de séries pionnières comme Queer as Folk ou The L Word, de documentaires engagés ou de débats de société jusqu'à la nuit trans en 2013 ou la célébration de 20 ans avec le documentaire 1995-2015, 20 ans de révolution gay. Et Canal ne s'est pas arrêté là, puisque pour les 25 ans de la nuit gay, donc la chaîne a franchi une nouvelle étape avec le lancement de Hello, donc un corner digital permanent sur MyCanal, qui est dédié donc aux œuvres LGBTQ+, européennes et internationales, avec un objectif: transformer ce rendez-vous annuel en une célébration continue de la diversité, accessible à tous les abonnés sur tous les écrans. Films, séries, documentaires, courts-métrages y sont proposés toute l'année, avec une programmation enrichie à l'occasion du mois des fiertés et tout l'été, donc, et aussi des événements comme le festival donc des fiertés. Aujourd'hui, la nuit gay, ce n'est plus qu'une seulement une soirée, mais un espace numérique vivant, reflet de la richesse et de la diversité des histoires LGBTQ+. Canal reste Canal, fidèle à son engagement contre toutes les formes de discrimination, et continue de promouvoir visibilité et inclusion, tout en s'adaptant aux nouveaux usages du public. Paradoxal quand on sait que la chaîne, que le groupe Canal+ compte une chaîne d'information qui n'est pas tout ça. Entre-temps, la nuit gay de Canal est passée donc du statut d'ovni télévisuel à celui de pionnière, depuis de référence et désormais de plateforme digitale incontournable. Et cette évolution raconte en filigrane celle de la société française et de la place des personnes LGBTQ+, dans les médias, un anniversaire à célébrer pour mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. Et pour aussi, pour information, à l'occasion de la Nuit Blanche 2025, le Centre d'archives LGBTQI de Paris-Île-de-France a proposé au public de revivre collectivement, sur grand écran, ce moment culturel et politique marquant qu'a été donc cette toute première nuit gay. Une soirée exceptionnelle qui a permis de redécouvrir une archive mémorable faite de clips, d'extraits de documentaires, de courts-métrages, de moments d'érotisme et d'humour. C'était vraiment très sympa. Ça a été ponctué de discussions avec le public et les créateurs et créatrices de la nuit gay qui ont partagé souvenirs, choix de programmation et réflexions sur l'évolution des représentations LGBTQ+, à la télévision. Ce retour collectif a souligné l'importance de préserver et de transmettre cette mémoire tout en mesurant le chemin parcouru depuis cette première nuit gay.
Une nuit mythique qui fête déjà ses 30 ans de vie. Merci Saphir. Allez, passons aux réactions. Est-ce que vous trouvez, vous... justement, qu'il y a de plus en plus de productions représentant les personnes LGBTQ+, ces dernières années, Ryan?
Oui, il y en a de plus en plus, c'est clair. Après, la manière dont elles sont représentées, c'est une autre question. Mais je trouve que effectivement, Canal+, sur ce coup-là, a été très audacieux. ou très audacieuse, puisque c'est une chaîne, et que c'est comme ça qu'on fait avancer les causes, c'est en les rendant visibles. C'est tout bête, mais c'est vrai. Et le rendre visible à cette époque-là, c'est quelque chose, c'est un acte fort. Maintenant, Canal+, n'étant plus sur la 4 depuis récemment, n'étant plus aussi exposé, je ne sais pas ce que ça va devenir, cette nuit gay, donc j'ai envie de dire affaire à suivre.
Jeanne.
J'allais dire que, alors il y a toujours cet enjeu de la visibilité, mais j'ai l'impression qu'il se transforme un peu en un autre enjeu qui est de mettre dans les programmes, genre des séries, des films, des personnes LGBTQ+, pardon, mais sans en faire un sujet. Sans que ce soit l'enjeu de la série, parce qu'on en a vu beaucoup des séries avec des personnes gays dont c'est vraiment le sujet de la série. Et de plus en plus, j'ai l'impression de Ah, tiens, il y a une famille avec deux mères lesbiennes, ou ah, tiens, il y a une personne homosexuelle, etc. Ou trans, ou enfin, avec tout ce qui peut être représenté, mais sans vraiment que ce soit au cœur de l'intrigue. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et très récent et encore assez peu vu, mais j'espère que. Non, on en aura plus.
C'est là justement où on voit une évolution globale, puisque ça vient toucher tout type de production. Isnel, ça t'évoque quoi, toi, ce sujet ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'espère aussi qu'on continuera à évoluer vers cette représentation où c'est juste sans que ce soit. Il faudrait qu'il y ait à la fois, je trouve, des séries qui parlent effectivement de ce que c'est de faire partie de cette communauté-là, et en même temps aussi simplement qu'ils puissent être. Plein d'autres types de personnages apparaître dans plein d'autres types de productions et juste que ce soit normalisé, même si je sais que tout le monde déteste ce mot, mais...
Oui, non, je comprends. Oui. Saphir, toi, t'en as pensé quoi de tout ça, justement, cette rétrospective, 30 ans, comme tu l'as bien cité, des évolutions majeures qui sont ponctuées d'année en année, tout ça, ça t'évoque quoi ?
Ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est quand même vachement mieux accepté aujourd'hui. À l'époque, il faut savoir que même au sein même de Canal+, il y a eu une fronde de quelques salariés contre cette nuit en disant mais franchement vous n'avez quand même pas honte, il y a des familles qui regardent la chaîne, faut savoir quand même que cette nuit était diffusée entre 23h et 6h du matin.
En plus Canal+ diffusait du porno donc
encrypté donc et à l'époque plusieurs journaux, notamment des journaux de droite et d'extrême droite, s'étaient complètement insurgés contre la diffusion de cette nuit gay, etc. Aujourd'hui ça passe quand même mieux et heureusement, donc signe que donc les mœurs évoluent, et heureusement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Ryan ?
Non, je veux rebondir parce que Jeanne a tout à fait raison, il y a besoin juste de personnages gays qui soient juste gays, qui soient autre chose que gays, enfin je sais pas si c'est juste très clair, qui soient avocats ou lycéens ou qu'importe, et il se trouve qu'ils sont gays. Et aussi, il y a besoin aussi, je trouve, de fiction où les personnages gays et surtout lesbiennes aient une fin heureuse et un avenir ne meurent pas. Ça finit souvent mal et je comprends pas pourquoi il y a besoin aussi de. Et du coup, ça fait penser aux gens qui sont LGBT qu'ils vont finir mal et il y a besoin aussi de happy ending, quoi, de famille. On les voit jamais vieux avec des petits-enfants, etc. Enfin, il y a besoin aussi de ça, je trouve.
Saphir.
Ça a été toute la magie de Queer as Folk. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette série ou pas, la version anglaise ou américaine, mais c'est une série sur 5 saisons qui justement débutait sur les premières saisons un peu dans la caricature, avec des personnages, un personnage qui adore le sexe, un autre qui est un peu plus réservé, etc. Et qui au fil des saisons a beaucoup évolué sur les sujets de société. Donc les personnages adoptaient des enfants, et donc ça parlait de GPA, de PMA, etc. Et il faut savoir que la série a été diffusée entre 1999 et 2005.
Ouais, précurseur.
C'est vachement précurseur. Et ça a aidé énormément de personnes aussi à se reconnaître. C'était la première série qui parlait ouvertement de ces sujets sans vraiment préjuger, quoi.
Merci beaucoup à tous et toutes pour vos réponses. Pour rappel, on vient de parler de la nuit LGBTQ+, anciennement appelée la nuit gay. Elle a été diffusée en juin dernier pour la 30e fois. Vous pouvez la retrouver en replay sur Canal+. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
À mon tour de vous parler cinéma, je vous emmène dans l'histoire d'une famille qui bascule, cap en Corée du Sud avec le film A Normal Family.
Hey, 오늘 어른들 밥 먹는다는 거 알지? 코에 바람 좀 넣자.
Que faire de nos enfants quand on ne les comprend pas ? Lorsqu'il est impossible pour nous de les comprendre ? C'est la question que soulève le film A Normal Family, sorti le 11 juin dernier au cinéma en France. Alors de quoi parle le film ? Pour vous raconter, on se plonge dans l'histoire de deux frères ayant chacun leur famille respective. Mais ils seront confrontés au même dilemme et ils ne vont pas réagir de la même manière. Le récit commence fort avec une mort brutale qui ne concerne pas la famille, enfin pas directement. Puis on découvre petit à petit le fonctionnement de chaque noyau, entre un grand frère avocat sans âme et le second médecin précaire dévoué aux autres. Leur mentalité semble les opposer en tout. Le récit continue, nous découvrons leur foyer, leur compagne ou femme, leur train de vie, puis l'intrigue s'installe vraiment. Les personnages clés sont en réalité les enfants de ces deux frères. Et ils vont commettre l'irréparable. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film ? Eh bien, sont mis en avant plusieurs aspects de la famille intéressants à penser. On retrouve notamment la question de la différence des classes sociales au sein d'une fratrie, les modèles traditionnels qui s'opposent au modèle de famille recomposé. Il y a aussi la question de la place des anciens au sein du foyer, ou encore celle du travail chez l'homme et du foyer pour la femme dans une Corée du Sud encore très traditionnelle. Et bien sûr, il y a aussi la question la plus épineuse, celle des enfants et de l'impossible contrôle de leur trajectoire. Alors quoi en dire sur ce film ? De mon côté, je dois être honnête, j'ai pas été emballée du tout. Si ma description du film a pu vous sembler longue et n'ayant pas vraiment de but, c'était justement pour relater le sentiment que j'ai eu tout le long du visionnage. Une trame qui commence fort, puis laisse des temps morts, une intrigue qui peine à se mettre clairement en place et la promesse d'un thriller psychologique qui se concentre à peine sur les enfants, pourtant principaux concernés. Même si le propos semble se tourner plus sur la réaction des deux pères face à ce dilemme inconcevable, je n'ai pas trouvé que l'aspect relationnel avec leurs enfants ait été pleinement exploité pour justement comprendre leurs décisions respectives en tant que père face à ce dilemme. Je sais que je n'épargne pas la production en disant tout ça, mais je me devais de vous relater cette impression après vous avoir présenté tous les aspects familiaux que soulevait tout de même le film. Il y a donc quand même matière à débattre. Évidemment, je vous encourage à aller le voir d'une manière ou d'une autre pour vous faire votre propre avis. Et me revenir, je serais ravie d'entendre des avis divergents. Être curieuse, curieuse, c'est aussi ça. Tomber parfois sur des œuvres qui ne nous parlent pas et nous laissent dubitatifs. Le tout est quand même d'en parler. Allez, passons aux réactions. Là, à chaud, vous dites quoi ? Ryan ?
Bah, ça donne pas du tout envie de le voir du coup, parce que si c'est long et on sait pas où ça va. Mais écoute, non, ça t'a pas parlé. Peut-être que ça me parlera, je ne sais pas quoi dire franchement. Non, ça a l'air
alors
assez...
on retrouve quand même voilà les codes de ces films coréens, ouais. Je les connais pas tant que ça, mais en tout cas on sent qu'on est on sent qu'on est dans cet univers quand même, donc c'est aussi la plus-value du film. Après voilà, moi pour être honnête, j'ai pas du tout trouvé ça original, précurseur, innovant, tout simplement. Mais ça n'engage que moi. Je suis allée le voir avec deux autres amies et elles ont adoré, disant justement ah là là, on s'y attend pas du tout, machin, tout ça. Voilà.
Est-ce que t'as ressenti un message ? Tu t'es dit tiens, le message que veut faire passer ce film, c'est ça ?
Eh ben en fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Il a fallu que je réfléchisse énormément pour rédiger cette chronique et c'est là où je me suis dit ah d'accord. En fait, c'est là où on voulait nous emmener, mais c'est si peu évident et ça demande tellement de temps et ça impose un exercice de rédaction que franchement, je me suis dit le pari est pas réussi quoi. Ou alors on y va pour passer un bon moment. On a deux trois scènes un peu brutales, oui, qui nous surprennent, mais enfin, c'est encore une fois, ça n'engage que moi, mais c'est un peu mon avis. Jeanne, qu'est-ce que tu dirais toi ?
J'ai aussi tendance souvent à dire ah mais faut se faire son propre avis, c'est important et tout ça, mais enfin. Vu la profusion de films qui sortent au ciné et des trucs pour lesquels on entend pour le coup des critiques dithyrambiques sur d'autres choses, etc., je crois pas que je vais prendre le temps de prendre 3 heures pour aller au ciné en me disant oh, on m'a dit que c'était nul, mais je vais quand même vérifier si moi je n'ai pas trouvé ça bien. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à voir en ce moment au ciné et que. Voilà,
oui, alors peut-être attendre qu'il soit disponible sur des plateformes.
Exactement.
Et peut-être ne pas dépenser plus de 10 euros. Saphir.
Bah du coup ça donne vachement envie. Non, ça a l'air un peu violent quand même, un peu mélodrame, un peu violent. Mais au fond, si j'ai bien compris, c'est un regard sur la famille sud-coréenne. Enfin.
pas tant que ça. Enfin, okay. Moi, c'est ce que j'y trouve et c'est là où je vois la valeur du film. Parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des mécaniques qui s'installent comme ça, entre les deux frères, entre les femmes, entre les enfants, machin, tout ça. Mais le propos initial du film, voilà, c'est de se dire, en fait, les enfants sont empreints d'une violence forte. Ils commettent un acte qui est irréparable. Et comment réagissent les deux pères pour leur enfant respectif?
Bon, en fait, c'est un remake de Pascal le Grand Frère, quoi, mais en version sud-coréen, quoi.
Ouais, ouais. Alors, pour avoir un point de comparaison, on a parlé il n'y a pas longtemps de la série Adolescence qui était sur Netflix. On est exactement sur la même thématique, exactement la même fin. Voilà. D'ailleurs, c'était un peu sur ça que je voulais aussi vous questionner. Ces nouvelles productions audiovisuelles qui se centrent sur la violence intrinsèque de ces enfants qui ont à peine 10 ans et qui pourtant, tabassent, voire parfois tuent. Ça est en train, je trouve, de proliférer dans beaucoup de productions. On en pense quoi de ça?
Bah, en même temps, ça prolifère dans la société aussi, quelque part. Donc, je trouve que le fait que ça puisse amener de la réflexion et de la discussion, notamment Adolescence, a énormément eu d'écho en Grande-Bretagne sur cette culture incel chez les ados et tout ça. S'il n'y avait pas eu cet exemple de série qui montre un enfant... Alors, il n'y a pas que des enfants violents, etc. Mais ça, c'est quand même un point qui peut permettre une discussion, un débat, amener des idées. Et ça, c'est assez précieux, parce que peut-être qu'on n'en parlerait pas autant sinon.
D'ailleurs, pour Adolescence, ça a été validé. Il y a des extraits qui vont être diffusés dans les salles de classe pour pouvoir sensibiliser justement les jeunes. Isnel, ça t'évoque quoi tout ça?
Oui, non, en vrai, c'est... je trouve ça bien, effectivement, que ce soit des sujets qui soient abordés parce que c'est des questions qui sont présentes. Tout ce qui est le harcèlement, les violences, ce genre de choses, c'est des problèmes qui sont là depuis très, très longtemps. Et c'est vrai qu'on commence enfin à en parler un peu plus et que c'est des productions qui sont un peu plus violentes, un peu plus difficiles à regarder, mais en même temps, on a tous été enfants et malheureusement, c'est la réalité, quoi.
Merci pour vos réponses. Normal Family, même si j'ai pas fait un joli dessin, c'est le film coréen que nous venons de mentionner. Il est encore disponible dans quelques salles de cinéma. Allez le voir si cela vous intrigue. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Nous sommes déjà à la dernière partie de notre émission et nous terminons avec la sculpture. Chloé nous a laissé un audio et nous emmène dans les rues de Paris à la découverte d'œuvres parfois cachées. On écoute.
Bonjour, bonjour et surtout merci de me faire une petite place dans cette émission. Moi, c'est Chloé et j'ai le nez bouché, pardonnez ma voix nasillarde. Je suis, comme toute la France, soumise aux allergies au pollen. On m'a confié ce mois-ci la lourde tâche de vous parler de sculpture, un art qui a longtemps été majeur mais qu'on a tendance à moins valoriser, faute sans doute à l'enseignement. Pourtant, moi, ça m'a toujours fascinée. J'ai souvent eu envie de toucher, de palper les corps des statues antiques, de suivre le long du doigt les articulations et les arêtes des bronzes de Rodin, car la sculpture peut permettre de sortir de la relation spectateur-œuvre, en ça qu'elle invite parfois à effleurer l'objet ou en tout cas à sortir du musée. Car oui, ce que je m'apprête à vous prouver dans cette chronique, c'est que la sculpture, c'est un art accessible, gratuit et surtout qu'on peut toucher. Parce que saviez-vous que Paris est un musée de sculptures à ciel ouvert? Elles sont si liées à l'urbanisme de la capitale qu'on ne les regarde même plus. Et moi, un jour, j'ai décidé de lever les yeux et de partir en balade dans les rues parisiennes à la recherche des sculptures qui habillent nos rues. Pour m'aider, j'ai pu consulter un site de la mairie de Paris, une cartographie interactive de toutes les sculptures parisiennes. J'ai décidé de vous retracer mon parcours. Habitant à Pantin, je commence par descendre le long de l'avenue Jean Jaurès et j'arrive devant la Villette et la fontaine Lyon de Neuilly. Fontaine que je vois tous les jours, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. Quatre lions, une fontaine au milieu et des jets d'eau. Rien de bien révolutionnaire au premier abord. Mais regardez de plus près, les lions sont hyper rigolos. Ils ont les oreilles décollées, ils ont la raie au milieu et ils sont surtout très géométriques, type art déco. Ils ont des corps puissants, des faux airs de sphinx. C'est des sculptures conçues par le sculpteur Girard et elles sont en fait beaucoup plus originales que prévu. Je continue mon parcours et je descends le long du canal Saint-Martin et du bassin de la Villette. Mon regard est attiré par un rayon de soleil qui brille très fort sur une culture de fer. Au milieu du square Mouloudji, un cercle en inox, divisé en deux en fait, qui fait deux demi-sphères, conçu par Davos Anish. Encore une fontaine, toute lisse, sur laquelle le soleil se réverbère, éblouissant les passants et faisant briller un quartier qui n'est pas forcément très valorisé. Je remarque que de nombreuses fontaines sont aussi des sculptures. Elles sont donc de l'art utile. Mais y a-t-il des sculptures qui ne soient pas aussi des fontaines ? Cela devient mon nouvel objectif, partir à la recherche de sculptures qui existent en elles-mêmes et pour elles-mêmes. Mes pas me mènent rue Jean-Pierre Timbaud, et je découvre une très haute sculpture blanche, impressionnante, d'un homme nu, au regard pensif et déterminé, le menton appuyé sur ses mains croisées. J'apprends qu'elle se nomme le répit du travailleur, et qu'elle a été sculptée par Jules Panderis, spécialisé dans les sculptures de la classe ouvrière et de la classe paysanne. Installée en face de la maison des métallos, elle rend hommage au monde ouvrier, alors en plein essor, mais aussi en pleine lutte pour ses droits. Une manière d'inscrire les luttes politiques dans la pierre, mais aussi dans l'espace public. Sur mon plan interactif, des petites icônes noires s'affichent, par dizaines. Certaines rues et certains quartiers sont remplis, tandis que d'autres sont plus vierges. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les quartiers les plus défavorisés sont les moins fournis. Existerait-il un lien entre la beauté des rues et la richesse de ses habitants ? Je vous le demande. Pour en avoir le cœur net, me voilà embarqué dans le métro. Un lieu qui manque cruellement de sculptures, si vous voulez mon avis, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Après plusieurs changements de ligne, j'ai traversé tout Paris. Me voilà, au complet opposé de mon point de départ, dans un endroit mystérieux dans lequel je ne m'aventure guère. Ici, les Moulineaux. Un lieu qui m'inspire cigares et nœuds papillons. Pour vérifier ma théorie, je pénètre l'un des plus grands parcs de la ville, le parc de l'île. Au loin, une silhouette imposante me toise. Rouge, blanche, noire et bleue, des entrelacs dans tous les sens, je crois reconnaître des visages, des formes. Haute de 24 mètres, la tour aux figures de Jean Dubuffet surplombe le parc, installée comme elle l'est sur une petite butte. Conçue en 1967 par Jean Dubuffet, un des fondateurs de l'art brut, elle a été installée en 1988, 3 ans après la mort de son concepteur. À la croisée de la sculpture et de l'architecture, elle se visite. À l'intérieur, une longue montée noire et blanche donne l'impression de pénétrer un cerveau humain et nous conduit sinueusement au sommet. On a l'impression d'être à l'intérieur de la tête de cet artiste visionnaire et follement original. Fatiguée par mon ascension, je clôt mon parcours parisien à la recherche des sculptures de la capitale. Mais je n'hésiterai pas à recommencer le week-end prochain.
Un parcours bien rodé par une chroniqueuse curieuse. Merci à toi, Chloé. Allez, passons aux réactions. Est-ce que vous avez le réflexe, vous, de lever la tête dans les rues, pour voir les statues qui nous entourent, Saphir ?
Absolument pas. Absolument
comme
pas.
Comme par hasard.
Mais c'est super intéressant. Franchement, c'est une très bonne idée de date, je trouve, de faire ce parcours des différentes sculptures dans Paris et dans la région. Non, c'était vraiment très sympathique.
Jeanne ?
Ouais, même chose. Trop sympa cette petite chronique de Chloé. Ça m'a un peu donné envie Enfin, j'ai un peu tendance à, comme elle dit, passer devant, pas du tout me demander ce que c'est, ou alors me dire c'est juste encombrant et pas très beau, alors qu'il y a sans doute plein de messages et de raisons de pourquoi c'est là à découvrir.
Ryan.
C'est une révélation. Non, parce que moi, souvent, je... J'abuse. Mais souvent, quand je marche dans la rue, j'ai soit mon GPS sur le téléphone, parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas m'orienter, et de la musique dans les oreilles. Et en fait, je suis un peu coupé du monde. Et là, ce qu'elle fait, c'est juste montrer qu'il y a de la beauté un peu partout et que l'art, bah, des fois, c'est gratuit. Et donc, c'est cool, il faut en profiter. Et donc, pareil, je vais faire plus attention. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant d'art et d'histoire à disposition dans les rues, surtout à Paris.
Jeanne.
J'ai une anecdote qui me vient, c'est que devant mon travail, il y a un espèce de mur avec des tags, un espèce de bout de mur qui est planté là. Et pendant longtemps, je me disais, genre, c'est quoi ce bout de mur ? C'est bizarre, c'est moche. Il s'avère que c'est un morceau du mur de Berlin. Et je ne le savais pas. Et je l'ai appris, genre, longtemps après avoir commencé ce travail. Et parce qu'il n'y a pas tellement d'écriteaux et tout ça, mais voilà. Donc il faut regarder ce qui nous entoure et se poser des questions.
Isnel, ça t'évoque quoi tout ça ?
Oui, pareil, comme Ryan, je suis toujours perdue, toujours avec ma musique, donc je vois rarement ce qui est autour de moi. Il arrive souvent que je me rends compte que « Ah, il y a un cinéma devant chez moi, je ne savais pas, par exemple. » Un truc comme ça. Et donc c'est vrai que... je retiens aussi l'idée de date et tout, parce que je trouve que c'est une super idée avec des amis, des copains, etc., de prendre le temps d'aller regarder les quartiers, voir ce qu'il y a autour et de voir qu'il y a des beaux monuments ou des beaux aussi murs avec des graffitis aussi, parce que je suis aussi pas du tout attentive à ce qu'il y a autour de moi. Et donc, ouais, c'était une super chronique.
Ouais, Chloé, en plus, l'a bien dit, elle a mentionné le domaine public, l'espace public, et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'art qui nous entoure. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais aussi, Jeanne, tu savais même pas que c'était un bout du mur de Berlin, mais peut-être aussi parce qu'il y avait pas les indications.
Oui, non, mais c'est ça aussi. C'est peut-être que autour de toutes ces sculptures publiques, il y a... pardon, j'étais peut-être.
Non, mais juste, tu vas continuer ce que j'avais envie de dire. Donc c'est
ça
parfait.
Ça manque de médiation. Si on savait, enfin, s'il y avait un petit truc qui accroche l'œil et pour peut-être donner envie de lire et de comprendre, voilà.
Surtout qu'en plus, c'est hyper intéressant parce que ça marque aussi nos lieux historiquement. On peut aussi se rendre compte voilà, comment le quartier dans lequel on vit a évolué, qui a pu y passer, quelles idées se sont collées sur des parois, dans des statues. Ça, franchement, ça peut aussi être passionnant. Moi, ça me ferait gagner en tout cas je me sentirais plus peut-être chez moi aussi parce que je connaîtrais là où je vis. Saphir, ça t'évoque quoi tout ça?
En fait, c'est... on sort un peu moins bête, on est un peu plus cultivé quand même derrière. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est de voir des fragments d'histoire en fait à deux pas de chez soi. Et ça, c'est quand même assez intéressant, oui.
Ryan?
Non, mais t'as raison, en fait, pour se sentir chez soi, il faut savoir l'histoire de l'endroit où on habite. Donc c'est bien de savoir l'histoire de France, c'est bien aussi de savoir l'histoire de son quartier. Et c'est vrai que moi, perso... mon quartier, je ne sais pas tellement quelle est son histoire spécifique quoi, dans les rues vraiment où j'habite. Et c'est quelque chose que je n'avais pas exploré et que grâce à Chloé, je vais peut-être explorer.
Merci Chloé. Voilà, on la remercie chaleureusement. Moi, je vous remercie pour vos réponses et vos réactions. Si comme Chloé, vous voulez partir à la rencontre de monuments cachés ou pas dans les rues de Paris, je vous invite à consulter le site de la mairie de Paris et vous faire votre propre chemin. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous Jeanne, Isnel, Ryan, Chloé et Saphir pour vos chroniques et vos réponses. Action.
Merci.
Là,
il faut me dire merci. Là, il faut me lâcher. Ils sont heureux, mais c'est tard, alors je les comprends. Merci à Eléa, à la technique. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram, c'est dans l'art RCP tout attaché. Là-bas, on y met toutes les références qu'on a citées. Ne les manquez pas. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous à la prochaine émission dans 3 semaines pour toujours plus d'art. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.